RCF.
Lancé le 20 octobre 2018, Joël, par une puissante fusée Ariane 5 depuis la Guyane, la sonde des agences européennes et japonaises BP Colombo vient d'effectuer son premier survol de la petite planète la moins bien connue du système solaire. Je veux parler de la planète Mercure.
Alors tu dis premier survol, il y en aura d'autres ?
Ah oui, 6 autres survols sont prévus. Le 2 octobre dernier, la sonde BP Colombo a envoyé vers la Terre une première photo de la planète la plus proche du Soleil et qui, curieusement, reste largement inconnue.
Et pourquoi inconnue ? Parce que Mercure, c'est quand même pas si loin. Hein.
C'est vrai, mais jusqu'à présent, seules 2 sondes américaines ont survolé Mercure. La sonde Mariner 10 entre 1974 et 1975.
Ah oui, ça ne date pas d'hier.
Oui, c'est vrai. Et il y a eu la sonde Messenger entre 2011 et 2015.
Alors pourquoi si peu d'engins spatiaux ?
Pour 3 raisons. La première est que l'on a cru longtemps que la planète Mercure était très semblable à la Lune, un astre mort, inactif, criblé de cratères et somme toute sans grand intérêt.
Et c'est le cas ?
Non, justement. On pense même aujourd'hui que c'est tout le contraire. Une planète très surprenante. La seconde raison tient à la mécanique céleste. Si l'on profite du mouvement de la Terre autour du Soleil pour envoyer des sondes vers Mars, Jupiter ou Saturne, loin dans le système solaire, pour explorer Vénus ou Mercure, c'est l'inverse. La vitesse de la Terre sur son orbite devient un obstacle. Même si Mercure n'est pas une planète lointaine, l'atteindre oblige à communiquer aux engins spatiaux une vitesse très élevée, mais dans le sens inverse du mouvement de la Terre sur son orbite.
De manière à ce que l'engin chute en direction du Soleil.
C'est ça, exactement. La troisième raison est une raison qui tient à la politique spatiale. Les responsables russes ou américains chargés des programmes de sondes spatiales automatiques sont presque toujours des spécialistes de la planète Mars ou Vénus ou bien des spécialistes des planètes géantes gazeuses. Jusqu'ici, Mercure n'intéressait pas. Pourtant, cette planète a une grande importance dans l'histoire de l'astronomie.
Pourquoi ?
Alors, au 19e siècle, les astronomes constatent une anomalie inexplicable dans le mouvement de la planète. Le grand axe de son orbite précessionne. Il se déplace dans l'espace par rapport aux étoiles.
Il ne devrait pas ?
Si, c'est le cas pour toutes les planètes, même la Terre. Mmh. Mais dans le cas de la planète Mercure, le point de son orbite le plus près du Soleil, le périhélie, progresse légèrement plus vite que ne le voudrait la loi de la gravitation universelle du génial mais détestable Isaac Newton.
L'écart est important ?
Non, 42,84 secondes d'arc par siècle, c'est très peu, mais c'est suffisant pour remettre en cause la justesse de toute la mécanique céleste.
Alors, a-t-on trouvé l'explication de ce phénomène ?
Alors oui, dans un premier temps, on a imputé l'anomalie à une ou plusieurs planètes, voire à un anneau d'astéroïdes ou un disque de poussière situé entre l'orbite de Mercure et le Soleil.
Ah oui, c'est la fameuse histoire de la planète Vulcain, imaginée par Le Verrier, qu'on n'a jamais trouvée.
C'est ça. Mais la réalité est tout autre. Elle tient à la lente rotation de la géométrie de l'espace-temps au voisinage du Soleil. La théorie de la relativité générale du génial Albert Einstein donne pour le déplacement du périhélie de Mercure un écart de 42 secondes 91 secondes d'arc, magnifiquement en accord avec les observations du 19e siècle.
La théorie d'Einstein est donc vérifiée par le mouvement de la planète Mercure. Que montre la première photo envoyée par BP Colombo ?
Alors la première photo a été prise à 2400 km de distance au niveau de l'hémisphère nord de la planète Mercure. Elle montre une zone qui a été recouverte par des laves assez semblables à ce que l'on voit sur la Lune. On y perçoit également un vaste cratère, Lermontov, d'un diamètre de 166 km.
Il y a donc des ressemblances avec la Lune.
Oui, mais des différences aussi. L'une des étrangetés de la planète Mercure, c'est sa rotation sur elle-même. On a longtemps cru que du fait de sa proximité au Soleil et des effets de marée qui en résultent, Mercure possédait une période de rotation exactement égale à sa période de révolution autour du Soleil, soit 88 jours.
Du coup, la planète aurait toujours présenté la même face au Soleil, un peu comme la Lune autour de la Terre ?
C'est ça. L'une des faces de Mercure étant exposée au rayonnement de l'astre du jour et l'autre éternellement plongée dans une nuit glaciale éternelle.
Et ce n'est pas le cas ?
Non. En 1965, deux astronomes américains, Rolf Dice et Gordon Pettengill, vont montrer que Mercure tourne bien sur elle-même, mais en un peu moins de 59 jours. Ce qui représente exactement les deux tiers de sa période de révolution.
Alors si je comprends bien, lorsque Mercure fait deux fois le tour du Soleil, elle tourne trois fois sur elle-même. Mais ça s'explique comment ça ?
Eh bien justement, c'est le chercheur aujourd'hui disparu, Bepi Colombo, celui qui a donné son nom à l'engin spatial dont nous parlons, qui a expliqué par les lois de la mécanique céleste ce curieux phénomène de résonance gravitationnelle. La combinaison du mouvement de rotation et de celui de révolution a d'ailleurs une curieuse conséquence, Joël.
Et laquelle ?
Eh bien pour un observateur situé sur la face éclairée de Mercure, hein, où la chaleur à l'équateur à midi dépasse quand même les 430 degrés Celsius. Hein. La durée du jour est de deux années de Mercure, soit 176 jours, c'est-à-dire qu'entre un lever et un coucher de soleil, il y a 88 jours terrestres qui s'écoulent et autant pour la nuit.
Donc un jour qui dure deux années, c'est surprenant quand même. Alors et le paysage de Mercure, ça ressemble vraiment à la Lune ?
Alors les images transmises par la première sonde spatiale Mariner 10 ont montré de vastes cratères d'impact comme sur la Lune. Et par certains aspects, c'est vrai que la Lune semblait même moins intéressante.
Et pourquoi moins intéressante ?
Eh bien, on n'y avait observé aucune trace d'activité volcanique présente ou passée. Même les vastes étendues sombres remplies de laves basaltiques refroidies qui forment les fameuses mers lunaires semblaient absentes, à l'exception d'un unique bassin circulaire, justement nommé Caloris.
Et y a-t-il une atmosphère sur Mercure ?
Alors elle est presque inexistante, à l'exception de quelques traces d'hydrogène et d'hélium, mais qui proviennent du vent solaire, et de quelques gaz, l'oxygène, le sodium, le potassium, l'argon, le néon, résultant du lent dégazage du sol. Seul point surprenant, l'existence d'un champ magnétique.
Comme celui de la Terre ?
Oui, mais d'une intensité quand même beaucoup plus faible, de l'ordre d'un peu plus de 1% de celui de la Terre. Mais ça reste suffisant pour dévier le vent solaire, ce flux de particules électrisées et d'électrons venus du Soleil. Et pour constituer une magnétosphère, on pense aujourd'hui que ce champ magnétique est actif et que, comme celui de notre planète, il est entretenu par les mouvements de convection d'un gros noyau de fer en fusion.
Et du coup, le sol de Mercure est peut-être moins riche en hélium-3 que celui de la Lune.
C'est très possible.
Quelle est la taille de la planète Mercure ? C'est la plus petite des planètes principales, c'est bien ça ?
Exactement. Son rayon vaut 40% de celui de la Terre, soit 2439 km. Et la masse de la planète reste comprise entre 5 à 6% de celle de notre propre globe. Mais sa densité est élevée, 5,44, à peine inférieure à celle de la Terre. Ce qui accrédite l'existence du gros noyau ferreux dont nous parlions et qui représenterait à lui seul 80% de la masse de la planète.
Et le noyau de la Terre, il représente quelle proportion, lui ?
Alors, il est estimé à 15% seulement.
Alors, quelles sont les autres particularités de la planète Mercure ?
Alors, contrairement à ce que les premières images laissaient supposer, des traces d'activité volcanique ont été mises en évidence dans les années 90 par Mark Robinson de l'Université d'Arizona et Paul Lucet de l'Université d'Hawaï. Ce sont des plaines relativement lisses, ayant une composition différente du reste de la planète et provenant sûrement de l'épanchement de matériaux venus de l'intérieur de la planète. Mais on y observe aussi des failles qui semblent s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres et qui ont des profondeurs de 1000 à 2000 mètres.
On trouve aussi des failles de ce genre sur la Lune ?
Oui, mais elles ne sont pas aussi importantes. Ah oui. Elles proviennent sans doute d'une contraction brutale de la planète liée à un refroidissement. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus surprenant sur Mercure. C'est la glace.
On pourrait trouver de la glace sur une planète si proche du Soleil.
Alors l'axe de rotation de Mercure est parfaitement perpendiculaire au plan de l'orbite. Autrement dit, il n'y a pas de saison sur Mercure. Une conséquence, c'est que le fond de certains cratères profonds, situés dans les régions polaires, n'est jamais touché par les rayons du soleil.
Alors ces cratères sont plongés dans une nuit éternelle, du
oui,
coup.
Oui, et il y règne une température permanente de moins 230 degrés, plus froide encore que sur l'hémisphère plongé dans la nuit. Or, les données recueillies par les radiotélescopes y montrent la présence d'un matériau très réfléchissant qui est probablement de la glace d'eau. Le même phénomène a été observé sur la Lune. Il s'agirait de dépôts glaciaires qui se seraient accumulés progressivement pendant des milliards d'années par suite d'impacts de comètes.
Alors que va nous apporter la mission BepiColombo ?
Alors non seulement une meilleure connaissance de la planète Mercure, mais aussi une meilleure compréhension de la naissance du système solaire. La mission BepiColombo va tenter d'en savoir davantage sur la formation de la planète Mercure, sa composition et sur ce qu'elle nous apprend sur la naissance du système solaire. Rappelons qu'il s'agit seulement de la troisième mission concernant cette planète après Mariner 10 en 73 et Messenger en 2004.
Et tu as dit que 6 autres survols sont prévus.
Oui, la photo a été prise à l'occasion du premier des 6 survols prévus. La sonde spatiale se compose de 2 modules. Le Mercury Planetary Orbiter de l'Agence spatiale européenne et le Mercury Magnetospheric Orbiter de l'Agence japonaise qui voyagent fixés ensemble. À terme, il est prévu que l'ensemble se place en orbite autour de Mercure en 2025.
Ils resteront ensemble ?
Non, à ce moment-là, ils se sépareront pour étudier le champ magnétique pour l'un et cartographier la planète de la manière la plus précise que jamais pour l'autre.
Mmh. Alors si je comprends bien, il va falloir être patient, puisque c'est en 2025 que l'étude de la planète commencera vraiment.
Oui, et on observera qu'en 2025, nous serons 52 ans après le premier survol de la planète Mercure. On peut le dire, hein, c'est pas trop tôt.
Eh oui. Et bien en attendant, au revoir à toutes et à tous. Au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel, avec vous bien sûr.
Au revoir Joël.